nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Comment fait-on des robes? Comment parvient-on à l'élégance, au dépouillement? Réponse lors d'une conférence donnée par un grand couturier. Ce qui compte dans une maison de couture, disait-il, c'est le studio. Paris, il n'y a pas une ville, selon lui, où le couturier puisse jouer avec les tissus avec plus d'efficacité. Le dessin, c'est l'étincelle initiale du modèle. Les grandes conférences, « Comment j'habille mes rêves » par Pierre Balmain, première diffusion sur la chaîne nationale le 1er février 1954.
Dans mon pays, en Savoie, quand le voyageur des montagnes quitte au lever du jour le fond de la vallée qu'en brume encore la nuit, il s'élance sur le long chemin et traverse des villages. C'est seulement beaucoup plus tard qu'à la croisée d'un chemin, il s'arrête et jetant un long regard derrière lui, il revoit et pense aux étapes de son chemin. Je me suis toujours distrait de petits objets que je confectionnais, de poupées avec lesquelles je jouais, avec lesquels j'ai joué jusque très avant dans ma vie, mais pas des poupées comme en ont les filles, pas des poupées qui sont en quelque sorte l'exutoire de leurs sentiments maternels, mais beaucoup plus des poupées qui étaient des mannequins ou des personnages d'aventures extraordinaires que j'inventais à mesure pour elles, et qu'elle vivait dans mes jeux de jeune garçon. Ces poupées, je les faisais en papier. Elles ressemblaient beaucoup à la mandragore du comte d'Hakim d'Arnim. Elles avaient une forme de vieux cep de vigne. Elles ressemblaient en quelque sorte à ces poupées russes dont elles étaient contemporaines. Vous vous souvenez peut-être de cette mode d'après la guerre, la première guerre mondiale, de ces poupées faites de matériaux invraisemblables, de fils de fer, de feutre, de laine, de cuir. Les miennes étaient faites de papier de soie. Elles étaient vêtues d'échantillons et elles étaient chaussées de minuscules chaussures de peau que je taillais dans de vieux morceaux de cuir et que je fixais au bout de leurs jambes par des épingles qui leur constituait un ravissant talon Louis XV. Ces petites poupées ont peuplé mon enfance et se sont partagées la faveur de mes jeux avec le goût très prononcé que j'avais déjà pour le théâtre. J'entrais à l'école des Beaux-Arts. Pendant 2 ans, je m'exerçais à tracer des colonnes. Heureusement, au bout de ce temps, ma mère m'écrivit que des revers soudains de fortune l'obligeaient ou bien à me demander de quitter Paris pour préparer l'architecture en province, ou bien à gagner ma vie. C'était l'occasion inespérée. Avec une recommandation, je me présentais dans différentes maisons de couture. Je n'oublie pas l'accueil plein d'aménités de Madame Jeanne Lanvin, qui, à ce moment-là, comme pendant toute sa vie d'ailleurs, n'avait besoin de personne pour faire des modèles et m'a très gentiment encouragé à aller proposer mes dessins ailleurs. Lucien Lelon m'avait aussi reçu, très gentiment, sans grand résultat. Robert Piguet me reçut rue du Cirque dans son hôtel, le premier de ses hôtels dans lequel il avait sa maison de couture, et m'acheta 3 croquis, mes 3 premiers croquis que je vendais en 1933 pour 90 francs les 3, 30 francs l'un. Je me précipitais chez Guerlain, j'achetais un flacon de Jiki, 64 francs, tout était à la même échelle. et je l'envoyais à ma mère en lui disant « Voyez, voilà, j'ai tout de même gagné déjà mon premier argent avec cette fameuse couture que vous abhorrez. » 8 jours plus tard, j'avais la chance d'être reçu par Édouard Molineux, alors dans toute sa gloire, et de lui montrer mes croquis. D'un œil distrait, il les parcourut, n'y vit apparemment rien d'intéressant, et je m'apprêtais, repliant mon grand carton, à me retirer. Quand il me dit, mais je crois qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour vous, venez donc la semaine prochaine, je pars pour Londres, nous marions la duchesse de Kent, et je reviendrai la semaine prochaine, si vous voulez, je vous verrai, et je vous dirai ce que je peux faire pour vous. Plein d'espoir, je refis d'autres croquis, et je revins la semaine suivante. Ce n'était pas les croquis qui l'intéressaient, il ne cherchait pas à acheter des croquis, mais je crois qu'il avait discerné dans ce jeune garçon qui venait lui proposer des dessins, quelque chose de plus que simplement les dessins de couture que l'on achetait alors 30 francs. Il me proposa d'entrer chez lui et me fit même la proposition la plus intéressante et la plus magnanime qu'on puisse faire à un jeune garçon qui débute dans la vie. Il me dit, vous continuerez vos études le matin aux Beaux-Arts, l'après-midi vous viendrez ici rue Royale, vous travaillerez sur les robes et sur la collection, et au bout d'un mois, je vous dirai s'il faut lâcher l'architecture ou la couture. Au bout de 16 ou 17 jours, il me fit appeler dans son bureau et me dit, vous savez, je crois que vous pouvez lâcher l'architecture, comme je le remercie. Je commençais avec lui l'apprentissage qui compte le plus dans ma vie de jeune homme, car si j'ai appris avec lui comment on fait des robes, j'ai surtout appris de lui la chose la plus importante dans l'élégance, le sens du dépouillement. J'ai appris de lui que l'on ne fait jamais une robe en ajoutant quelque chose, mais toujours en retranchant quelque chose. Car jour après jour, dans le studio du couturier, la robe revient vers son créateur, il faut toujours que celui-ci enlève quelque chose, simplifie et travaille non pas dans l'ornement, mais seulement dans la masse, dans l'architecture de sa robe. De Molineux, je me rendis ensuite à la veille de la guerre chez Lucien Lelon. Un autre apprentissage m'attendait là-bas, celui de la responsabilité. Dès la fin de la guerre, nous commençâmes dans la période très dure de 1945, quand l'électricité était coupée plusieurs heures par jour et que les ouvrières étaient obligées de travailler avec des lampes à acétylène. Je me souviens qu'un jour, on a même brûlé une robe de tulle qui devait être portée à un bal le soir même avec la lampe à acétylène. C'était une catastrophe sans nom. Les premières ouvrières que j'ai eues, j'en avais 16. Et j'avais seulement 15 tabourets pour les asseoir, la 16e s'est assise pendant toute une matinée sur un porte-parapluie. Ce qui compte le plus dans une maison de couture, c'est le studio, c'est le cœur de la maison de couture. C'est là que va naître, saison après saison, cette collection qui défend le nom de la maison et qui apporte au monde entier une certaine conception d'élégance qui est signée du couturier. Dans le studio, s'amoncellent chaque saison les produits de l'industrie textile française. Il n'y a pas au monde une ville où le couturier puisse jouer avec plus d'efficacité, avec plus de largeur d'idée avec les tissus qu'à Paris. Si l'on songe que dans mon studio, en ce moment, où l'on prépare la collection d'été, il y a environ 5000 mètres de tissus qui m'ont été envoyés à condition par les fabricants de tissus français, que ces 5000 mètres de tissus valent en moyenne 3000 francs le mètre, car certains vont jusqu'à 15 000 francs le mètre, mais d'autres coûtent beaucoup moins. Cela fait 15 millions de marchandises immobilisées pour plus d'un mois dans un studio pour mon bon plaisir, si l'on pense qu'il y a à peu près 20 maisons de couture qui sont traitées comme la mienne, cela fait plus de 300 millions de francs de tissus qui dorment dans des studios au gré de la fantaisie de couturiers. Si l'on y ajoute les innombrables ceintures, les boutons, les fleurs qui, à foison, sont envoyées chez chaque créateur parisien pour son choix et pour son approbation, on imagine difficilement qu'on puisse, ailleurs qu'à Paris, obtenir un tel instrument de travail. Je le sais très bien moi-même qui, quand je dois par hasard, dans ma maison américaine, faire un changement à une robe, suis obligé sur échantillon d'acheter les quelques mètres de tissu nécessaires. On ne trouve nulle part au monde le service que l'industrie textile française donne à la couture parisienne. Le travail des modèles, incessant labeur qui dure de longues semaines jusqu'au jour de la présentation de la collection, a pour point de départ soit un dessin, soit le drapé d'un tissu sur un mannequin, le plus généralement un dessin. Certains couturiers achètent des dessins à l'extérieur, d'autres préfèrent les faire eux-mêmes, assurant ainsi plus de personnalité à l'ensemble de leur travail. Mais je prétends que le dessin n'est que l'étincelle initiale du modèle. C'est la grande différence qu'il y a entre le modèle de couture et le costume de théâtre. C'est qu'un costume de théâtre est la reproduction exacte d'une maquette, tandis qu'une robe n'est jamais, quand elle est bonne, la reproduction exacte d'un dessin. Elle est née du dessin, elle en est partie. Elle s'en est échappée immédiatement, elle s'échappe même des mains de son créateur et une collection, jour après jour, à mesure que le couturier y travaille, s'échappe de ses mains, s'impose à lui-même et l'oblige, en somme, à la faire évoluer dans un sens que peut-être au départ il n'avait même pas lui-même imaginé. Je crois que c'est la véritable qualité de la création que de s'imposer ainsi à son créateur, de même que je crois plus grande et plus intéressante la personnalité des enfants qui, s'échappant peu à peu de l'âge de bébé, imposent à leurs parents leur propre personnalité. Les essayages sont nombreux. Une robe revient jusque 10 fois, 12 fois, 15 fois au studio pour être changée, pour être modifiée. Et à ce moment-là, joue énormément dans notre milieu la personnalité de ces quelques jeunes femmes qui ont attiré depuis longtemps l'intérêt du public, parce qu'elles sont belles, parce qu'il y a quelque chose d'assez romancé dans le fait d'être ce qu'elles sont, les mannequins. Les mannequins qui, pour la plupart, sont de genre assez bourgeois, assez simple, assez réservé, sont appelés par la profession à devenir pendant quelques instants au salon, en portant certaines robes, des reines, des ambassadrices, des duchesses. Il y a des mannequins dont nous plaisantons nous-mêmes en disant « Oh, celle-ci, c'est une robe de course, on la met sur elle. » Il y a des mannequins qui vont toujours aux courses. Il y a des mannequins qui, au contraire, sont toujours en tailleur. Elles ont une personnalité qui débordent de beaucoup leur vie privée. Elles sont des actrices d'un drame journalier ou d'une comédie journalière. Elles sont les actrices d'un théâtre que nous dressons tous les jours, tous les après-midi dans nos salons. Elles sont surtout les collaboratrices du créateur pendant les semaines de la collection, c'est elle qui, par un geste, par un moment, une attitude, savent faire vivre un tissu, savent ou bien donner à une robe la vie qu'elle aura ou la tuer définitivement si elles n'ont pas justement ce sens-là. Les mannequins sont importantes, certes. Tout aussi importantes sont les premières d'atelier qui travaillent avec le couturier à élaborer ces robes qui feront partie de la collection et qui sont souvent d'anciennes arpètes qui ont été formées dans le cadre même de la maison où elles sont premières. J'ai auprès de moi une première qui depuis 20 ans m'a suivi à travers les différentes maisons où j'ai travaillé jusqu'à ce qu'elle se joigne à mon propre personnel. Elle est minuscule, toute petite. Elle a dans ses doigts quelque chose qui fait que la robe, le dessin qu'on lui a donné, elle le comprend tellement bien qu'elle lui donne souvent même plus de sens que je n'en avais voulu moi-même. Et avec ça, elle a la vraie qualité de la Parisienne. J'ai un souvenir d'elle absolument merveilleux. Un jour, devant faire une robe pour la reine d'Angleterre, qui est maintenant la reine mère, avant son voyage en Australie, j'emmenais cette première avec moi à Londres. Une grande Rolls-Royce du palais va nous chercher à la gare et on nous fit attendre dans la cour du palais de Buckingham jusqu'à ce que Sa Majesté soit rentrée car la reine remplissait les devoirs de son mari malade et elle était sortie pour inaugurer je ne sais quel monument. Nous avons dû attendre dans la foule massée aux grilles que la reine revint au palais. C'est une situation un peu gênante, on se sent tout de même pas très à l'aise dans une grande voiture tout en glace, au milieu d'une foule. Je jetais un regard sur ma voisine, sur cette petite première parisienne, en me disant, mon Dieu, elle doit être dans ses petits souliers. Pas du tout, elle saluait à droite et à gauche. Quand je voyage à l'étranger, il n'est pas rare que l'on me demande « Mais comment se fait-il qu'à Paris, il y a une unité entre les maisons de couture ? Comment se fait-il ? » Naturellement, vous vous réunissez avant les collections et vous décidez d'une ligne. Quand on est parisien, on sait très bien que c'est un rêve absolument impossible que l'on puisse réunir les représentants des maisons de couture pour décider avant d'une politique commune en matière de ligne. Ça serait une hérésie absolue. Le fait qu'il y a une unité à Paris et qui fait que la mode de Paris est la seule valable et la plus importante mode du monde, c'est beaucoup plus parce que nous travaillons tous d'abord, comme je le disais tout à l'heure, sur les mêmes tissus. Les mêmes tissus nous sont proposés à tous. Chaque saison, ils évoluent dans un sens ou dans un autre. On nous apporte des tissus qui sont plus souples ou qui sont plus raides ou plus qui ont un certain apprêt. On nous apporte des ornements qui sont voisins, qui sont cousins. Chaque fabricant de ceinture ou de boutons soumet sa collection à l'ensemble de la couture, et fatalement, chacun doit y puiser à peu près il cherche à trouver la même réaction à cette collection. Les mêmes broderies, ou tout au moins les broderies qui sont similaires. Et puis il y a surtout, évidemment, l'air que nous respirons, cet air de Paris, qui a pour nous tous ce même équilibre, ce même sens de la mesure, cette même beauté poignante qui me serrait le cœur quand je suis sorti pour la première fois à Paris à 19 ans, où j'arrivais de ma province pour devenir architecte, comme je le disais tout à l'heure, et où je n'étais jamais venu. On m'a fait sortir du métro de la Concorde à 8h30 du soir, un samedi soir, devant les fontaines illuminées. J'ai pleuré. Et je ne l'oublierai jamais. Et je crois aussi que l'unité de la couture, enfin de la mode qui est proposée par la couture parisienne, provient du fait que nulle mode ne naît de l'absolu, mais qu'elle découle toujours, qu'elle est le produit d'une évolution normale, et que, tout normalement, pour chacun des représentants de la couture parisienne, l'évolution doit se faire dans un sens qui est le même, et avec leur interprétation personnelle, c'est tout de même cette même évolution que tous les couturiers parisiens proposent au public. Je voudrais vous lire quelque chose qui, pour moi, est comme le résumé même de l'élégance. C'est le début d'un tout petit livre de Louise de Villemorin, Madame II. Dans un monde où le succès et le renom d'une femme dépendent moins de sa beauté que de son élégance, Madame II était avec beaucoup de grâce la plus élégante des femmes. Elle donnait le ton à toute une société, et comme les hommes la disaient inimitable, les femmes réfléchies s'efforçaient de la copier, de s'apparenter à elle par un peu de ressemblance qui leur rapportait l'écho des compliments qu'on ne cessait de lui adresser. Tout ce qu'elle choisissait prenait un sens nouveau ou une nouvelle importance. Elle avait de l'invention, elle éclairait l'inaperçu, elle déconcertait. Ce livre entier, d'ailleurs, de Louise de Villemorin, pour moi, a une énorme qualité. Il est à peine situé dans le temps, ni dans l'espace, et on n'y décrit jamais une seule robe, si l'on y parle toujours d'élégance. Et puisque j'ai abordé le sujet de l'élégance, je voudrais achever par la lecture d'une lettre de Paul Valéry sur l'élégance, une lettre par laquelle il donne à une dame une leçon d'élégance. Vous m'interrogez sur l'élégance qui n'est pas mon affaire mais la vôtre. Pensez-vous que j'aille vous instruire par raison démonstrative des mérites de tel modèle de robe ou de chapeau? Je ne dis pas que je me sente tout incapable de vous murmurer à l'occasion un avis plus ou moins motivé. J'oserais même peut-être illustrer mon idée par un croquis. Mais de précepte, point. Du reste, une robe, un chapeau, ce ne sont que des incidents et des moments d'une élégance. Ce sont choses qui ne vivent qu'un instant et de la vie même de celles qui les portent. Il en est qui, si heureusement réussies qu'elles soient, périssent sur la tête ou sur le dos de telle personne vouée par les dieux à la distinction sans retour. Songez que la beauté même n'est pas toujours capable d'élégance. Elle est tout autre chose. Il est des femmes si belles qu'elles ne peuvent pas être élégantes. C'est qu'il s'agit, pour l'être, de réaliser une composition de bien des choses et puis d'en faire un rien. Que voulez-vous que je vous dise d'un bouquet de qualité qui doit produire une impression singulière sans être étrange, où il se mêle une certaine intention de ne pas se faire remarquer, avec un soin subtilement sensible de se laisser distinguer? En suivant cette même idée, j'ai toujours prétendu qu'une femme élégante, on ne doit pas plus la remarquer quand elle entre, qu'on ne doit l'oublier quand elle est sortie.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 1er février 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.